mets pas beaucoup de chocolat blanc, mais ça permet de contrebalancer avec la lavande. Et c'est pas, il faut pas beaucoup de lavande pour pas que ça fasse produit d'entretien, enfin produit à chiottes. Il faut que ce soit vraiment léger. Donc c'est à la fois c'est léger, c'est une pointe de lavande et une pointe de chocolat blanc. Et c'est vrai que pour trouver la pointe en question, il faut faire des tests. Ouais.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, deuxième détour de notre escapade nantaise. Après la bière dans l'épisode précédent, on se pose cette fois au Canyon Café pour discuter avec Simon et Julia. Canyon, c'est un café fleur. Comme le nom l'indique, vous pouvez y déguster un bon café, des très bonnes choses à manger, mais aussi acheter des fleurs françaises de saison. Comment on se lance dans un tel projet? Comment ça marche au quotidien? Un café, un bon dessert, et c'est parti.
D'habitude, je commence avec des questions très axées sur le métier des gens. Mais j'ai réalisé que ton activité est quand même difficile à dissocier de ton parcours. Alors d'abord, comment tu te retrouves à la tête d'un café fleur?
Manière factuelle, c'est Julia, ma compagne, qui un jour a eu cette idée folle alors qu'on habitait à Paris et qu'on était tous les deux bien installés dans nos précédents métiers. Moi, j'étais journaliste chez Basket USA, donc spécialisé sport basket. Et Julia, elle travaillait dans les médias, dans la communication. Et en fait, il y a le groupe, elle faisait partie du groupe Lagardère qui était en passe d'être vendu. Et donc, il y avait potentiellement une opportunité pour faire autre chose. Et puis, elle a eu cette idée de faire un café fleur parce que ça existait à Paris. Et en fait, on a décidé. Après, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait le tour aussi, moi, de mon taf dans le basket, et du coup on s'est dit pourquoi pas, et après deux ou trois ans de réflexion, de recherche, de déménagement, on a réussi à ouvrir Canyon.
Les cafés fleurs, donc ça existait déjà à Paris, c'est quoi le concept exactement?
En fait c'est la même manière qu'il y a plus maintenant de café librairie, café laverie. Café fleur, il y en a quelques-uns en France, dans le monde d'ailleurs. Il y en a quelques-uns à New York aussi, à Amsterdam. Et à Paris, il y en avait trois ou quatre. Et notamment Désiré, qui est vraiment un café fleur avec une partie café et une partie fleuriste. Parce que vu qu'en fait, c'est un terme, une activité qui n'a pas vraiment de définition. Donc il y en a qui sont beaucoup café, un petit peu fleur. Il y en a qui sont beaucoup fleur, un petit peu café. Comme parfois on rentre dans un fleuriste et puis une petite table au fond pour boire un café. Et en fait, Désiré, c'est un café qui existe à Paris, un café fleur, où c'est vraiment deux activités séparées et qui ont parfois un lien, que ce soit avec des fleurs dans la cuisine et puis une démarche qui est aussi cohérente des deux côtés, puisque souvent, les cafés fleurs en tout cas qui existent, essayent de faire maximum de la fleur française. Et du coup, s'aligne aussi au côté café. Et puis, c'est deux démarches qui vont dans le même sens. Et nous, on a décidé de forcément, on est obligé d'axer un peu plus sur la restauration et sur le café, parce que ça génère tout simplement plus d'argent que la fleur. Et dans notre modèle, c'était ça. Après, les deux se complètent bien. On a toujours un coin fleur. On a des fleurs qui sont présentes dans les plats. Et on a quand même un fil rouge entre café et fleurs, quoi.
Le but, c'est que ça s'équilibre à terme, ou alors les fleurs, ça reste un petit peu derrière le café?
Honnêtement, c'est difficile à dire. J'aurais tendance à penser d'abord d'un point de vue peut-être économique, où il y a en fait tout simplement le taux de marge dans la fleur, il est moins élevé que dans la nourriture. Donc en fait, il faudrait faire beaucoup, beaucoup de fleurs, même pour arriver au niveau de la nourriture. Et en plus, ça me déplairait pas de le faire, mais faire de la fleur française, c'est déjà très compliqué. Parce qu'il faut convaincre les gens de payer plus pour avoir mieux. Et autant dans la nourriture, les gens l'ont compris maintenant, il y a beaucoup de bio local, c'est impossible de voir un emballage qui ne soit pas vert avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Autant dans les fleurs, les gens comprennent pas que c'est pareil en fait, qu'on peut pas. Là, les gens mangent plus de tomates l'hiver. Là, il y a peu de gens qui le font. Mais les gens ont compris que ça se faisait pas. Mais là, maintenant, expliquer que là, en hiver, il y a moins de fleurs, c'est compliqué. Et que les fleurs françaises, ça coûte plus cher, forcément. Alors que le pire, c'est frustrant, parce qu'en plus, c'est paradoxal. Parce que les fleurs, elles viennent d'à côté. Donc ça devrait être Elle est moins chère.
Il y a des gens qui viennent juste acheter des fleurs.
Ouais. Il y a des gens qui ont compris le... Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas compris le concept, il y en a beaucoup. Et du coup, qui viennent manger, qui viennent prendre un café, et puis qui, au bout du troisième ou quatrième passage, se disent « Mais c'est des vraies fleurs ?»« Ah, vous vendez des fleurs ?» Donc, malgré le fait qu'il y ait marqué « Café fleurs » en grand sur la devanture, on explique et c'est super. Mais il y a des gens aussi qui aiment bien les fleurs et qui prennent vraiment que des fleurs. Et c'est tout. Et par exemple, hier, il y a une fille qui a rempli sa carte de fidélité côté fleurs, donc qui a acheté déjà 10-12 bouquets, qui n'était jamais venue manger. Elle est venue là manger pour la première fois hier. Donc souvent, c'est l'inverse. Les gens viennent manger, de temps en temps repartent un bouquet, mais il y a aussi l'inverse, quoi. Donc ça, c'est cool.
Julia gère les fleurs. Toi, la partie restauration, c'est strictement défini ou alors chacun aide l'autre?
C'est quand même relativement strict où Julia, elle fait les fleurs et le service. Et aussi pas mal la compta. Et moi, je fais la restauration. Donc, c'est... Elle a plus un travail où c'est... Elle, par exemple, là, aujourd'hui, elle est chercher des fleurs. Mais les fleurs, elles vont lui faire plusieurs jours. Donc, après la compta, ça lui prend un jour. Et moi, c'est plutôt... Donc, ça fait beaucoup de travail sur une journée. Et moi, c'est la restauration où c'est pour gérer les stocks... préparer à l'avance, faire les gâteaux, faire la nourriture pendant le service, etc. Donc, mais Julia m'aide beaucoup. Quand je suis un peu dans le jus et que j'ai besoin de couper des radis, je peux compter sur elle. Et puis je l'aide aussi parfois quand elle fait les fleurs, là pour préparer le café, parce qu'elle fait aussi barista la plupart du temps. Donc c'est elle qui fait les boissons aussi. Donc, on s'aide un petit peu quand même. Ouais.
Julia, comment on fait un beau dessin, un beau cœur? Tu fais que des cœurs?
Essentiellement, ouais. Je fais que des cœurs. Alors, il faut mousser le lait avec la buse. Il faut d'ailleurs utiliser un lait qui est gras, donc un lait entier, pasteurisé. Okay. Ou des laits végétaux, mais qui sont faits juste pour les baristas. Et ensuite, on le mousse à la buse et on incorpore le lait tout doucement dans le café. Et on arrive à faire cette petite forme en faisant un mouvement de dauphin. Donc en entrant et en sortant le bec du verre doseur dans la tasse.
Et ça fait un joli cœur.
Exactement.
Vous êtes ouvert de 11h à 18h.
Ouais.
Donc ça fait 7h d'ouverture. Mais ta journée, elle commence forcément avant et elle finit forcément après, je suppose. Elle commence à quelle heure et finit à quelle heure?
On va dire en moyenne là en ce moment, parce que forcément ça fait pas longtemps qu'on est ouvert, donc il a fallu prendre un rythme. Ouais. Donc, en mars avril l'année dernière quand on a ouvert, on était là à 7h jusqu'à 8h ou 9h. Maintenant qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, on va dire qu'on est là en moyenne, je dirais à partir de 8h, 8h30 le matin jusqu'à 6h30, 7h le soir.
Oui, quand même, 8h30 pour ouvrir à 11h. Donc, tu fais quoi quand tu arrives, en fait?
Bah, quand j'arrive, je fais un peu de ménage de la veille qu'on n'a pas fait. Des trucs bêtes comme remplir de la vaisselle, ranger la vaisselle qui était propre, refaire un petit coup de nettoyage. Si on a eu des fournisseurs qui nous ont livré et qui ont laissé les briquettes de lait ou l'huile en bazar, il faut la ranger. Il faut préparer les gâteaux et la nourriture qui a besoin d'être préparée pour le jour même. Et si j'ai pas eu le temps de la faire la veille, l'après-midi, parce que vu qu'on est ouvert toute la journée, l'après-midi, s'il y a moins de monde, je peux prendre de l'avance et préparer. Si j'ai plus de pâte à cookies, je peux en refaire. Si j'ai pas eu le temps d'en refaire, il faut que je vienne un peu plus tôt le lendemain. Donc voilà, on vient pas forcément à la même heure avec Julia. Julia, là, ce matin, elle s'est levée à 6h pour aller chercher ses fleurs, pendant que moi, je dormais tranquillement. Et demain, peut-être que je viendrai un peu plus tôt pendant qu'elle elle se reposera aussi.
Oui.
Donc ça fait des grosses journées. Ça dépend des stocks, ça dépend s'il y a du... Là, en ce moment, il y a moins de monde avec ce qui se passe autour du Covid, les mesures, etc. Donc je sais que j'avais moins de choses à préparer ce matin et j'ai le temps de discuter avec toi, alors que parfois, j'aurais pas eu le temps.
Mais
et ça dépend des jours aussi.
C'est ce que j'allais dire. Du coup, ça te fait quand même des très grosses journées. Je suppose que tu comptes pas les heures, mais est-ce que tu les sens passer, entre guillemets?
Le plus dur par rapport au temps de travail, c'est le fait de devoir être là sur ton jour de repos pour préparer, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on est ouvert du mardi au samedi, Le dimanche, c'est repos. Et le lundi, il faut que je retourne faire mes courses et que je prépare ce que j'ai à préparer pour le reste de la semaine. Donc, ce qui fait que j'ai qu'un jour de repos. Donc, ça fait des journées qui sont grosses. Après, il y a beaucoup de gens. Enfin, il y a plein de gens qui partent à 8h le matin, qui rentrent à 20h le soir. Mais c'est surtout le fait d'avoir un jour de repos qui est dur au niveau physique, parce qu'on piétine beaucoup et j'ai beau avoir fait beaucoup de basket, je suis toujours courbaturé tous les matins. Et au niveau aussi mental, parce que du coup, t'as l'impression d'avoir fermé la porte de Canyon et 24h, 36h après, tu la réouvres tout de suite pour y passer beaucoup de temps. Donc ça, c'est ça qui est le plus dur. Et aussi les temps, juste pour les temps où il y a moins de monde, où là le temps peut être très long. Parce que tu vas pas aller t'allonger et regarder ton téléphone, donc t'es derrière le comptoir et attendre les clients, même pas juste parce que c'est au-delà du fait de faire du chiffre et d'avoir du monde, c'est juste le temps est deux fois plus long. Ça, c'est vraiment fou.
Il y a des trucs super originaux et sympas à la carte. Comment on imagine un plat? C'est quoi le processus pour qu'un truc finisse sur ta carte?
C'est la base du projet, c'était qu'on voulait faire un truc qui nous plaise. Donc il y a des trucs qui sont pour le coup assez égoïstes, où c'est juste qu'on aimait des choses et qu'on voulait les refaire. Et typiquement le concept de Café Fleur, c'est un truc qui n'existe pas à Nantes et c'est un truc que nous on voulait faire. Et presque pas, peu importe si les gens aiment, mais nous on est convaincus aussi que ça va leur plaire aussi. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a des plats que j'aime beaucoup et on a une carte aux accents américains. Donc il y a des plats que, par exemple, le meatball sandwich, c'est un sandwich avec des boulettes de viande et la sauce tomate. Donc c'est, on a pas mal de clients végé, donc c'est un truc qui sera pas forcément populaire et c'est un truc qui, dans les faits, ne fonctionne pas hyper bien. Alors que c'est un truc qui nous plaît beaucoup et qui a une connotation vraiment américaine et qu'on voit pas partout, mais ça marche pas. Donc c'est plutôt ce qui nous plaît d'abord, on va essayer de le refaire et après on tire des conclusions, voir si ça marche ou pas. Il y a aussi des tests, des recettes originales, comme par exemple le cheesecake que je faisais tout à l'heure, le cheesecake chocolat blanc et lavande, où ça je me suis dit pourquoi pas infuser un peu de lavande dans la crème pour donner un côté floral sans que ce soit pas trop prononcé, et ça marche super bien, c'est un de nos best-sellers. Et ça, pour le coup, c'est une réussite. Ouais. C'est sympa quand ça va dans ce sens-là. Ouais.
Je sais que c'est une question un peu vague, parce que interroger la créativité, c'est toujours... on ne peut pas rentrer dans ton cerveau, mais à quel moment tu dis « je vais faire infuser de la lavande pour mettre dans un cheesecake ?»
Bah, c'est un moment où on avait bossé avec une herboriste pour élaborer une infusion Canyon. On avait fait des tests avec plein de fleurs différentes. Du sureau, tagette, basilic sacré, de la lavande. Et la lavande, c'est quand même une petite fleur qui est assez accessible. Il y en a qui le sont moins. Et ça existe déjà de faire infuser de la lavande. Enfin, je sais même pas si j'ai déjà vu avant. Je sais pas comment est venue l'idée, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai essayé d'abord de mettre de la lavande dans le gâteau, mais c'était pas digeste. Après, je me suis dit, il faut peut-être que j'irai pas plus loin, parce que sinon je vais donner le secret de la recette.
En tout cas, quand t'en parles, on sent que t'es passionné par ces produits-là. En fait, même dans ta vie d'avant, j'ai l'impression que t'aimais déjà en fait parler de la vente, de trucs comme ça.
Bah, le basket occupait beaucoup de... occupait beaucoup de place.
Non mais ça n'a pas l'air sensibilité... de venir de nulle part. Bah, ouais, t'as une sensibilité à la nourriture, à ces tests-là.
Je pense que c'est Julia qui m'a amené dans le côté fleurs. Son père a une formation de pépiniériste. Il adore les passionnés par les plantes vertes et les fleurs. Ce matin, ils étaient tous les deux pour aller voir les plantes vertes aux mines à côté de Nantes, le marché aux fleurs. Et donc Julia, elle avait cette sensibilité aux fleurs. Et j'étais pas du tout rentré dans cet univers. On habitait à Paris en plus, donc c'est pas le meilleur endroit pour. Et en fait, c'est ce truc de Café Fleur où ça m'a donné une porte d'entrée là-dessus. Et en fait, maintenant, ça me passionne vraiment, les fleurs. Je le travaille pas beaucoup parce que Julia s'occupe de cette partie-là. Mais du coup, maintenant, c'est vrai que ça me passionne. Et que, en fait, si tu veux, moi, je veux que mon projet soit cohérent. Et du coup, c'est tout est lié, quoi. Le fait de mettre de la lavande dans le plat, ou la monarde, c'est une petite fleur que je connaissais pas, et notre herboriste nous a dit c'est un substitut du thym. Bah, je me suis dit, bah, autant le mettre dans l'assiette à la place du thym. Et en plus, c'est, pour le coup, c'est produit chez elle dans le Finistère Sud. Je me suis dit, pourquoi pas aussi le mettre avec de l'abricot, parce que abricot et thym, ça marche bien. Donc je me suis dit, je vais mettre de l'abricot et de la monarde. Donc j'ai fait des tartelettes aux abricots avec de la monarde. C'est des trucs qu'on voit pas ailleurs. Je me suis pas dit forcément, je vais... Enfin, c'est plutôt des... Dans cet univers-là, c'est des liens qui se font maintenant un peu automatiquement et que je trouve cohérent. Après, ça marche ou ça marche pas, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est intéressant de pousser au maximum ce truc-là, quoi.
Je reviens à ton cheesecake, sans dévoiler le secret. Mais tu disais, il y a eu des tests. Combien de tests il faut, en moyenne, pour élaborer un plat, alors que ce soit plat ou dessert, d'ailleurs ?
En pâtisserie, bah déjà il y a la pâtisserie ou le sucré ou le salé, ça n'a rien à voir, parce que pour moi en tout cas, le sucré, c'est quand même un travail de précision, où si tu mets trop de levure, c'est au gramme près, quoi. Alors que le salé, tu peux un peu aller au feeling sur les épices, etc. Donc je dirais que c'est difficile à évaluer, mais je sais que le cheesecake, j'en ai fait plusieurs avant de... Moi, je dirais peut-être 5-10 avant de me rendre compte que de trouver vraiment la bonne recette et pour que ce soit bon, pour que ce soit équilibré avec le chocolat blanc les gens n'aiment pas. Enfin, le chocolat blanc dans un cheesecake, ça peut faire très lourd. Et en fait, je mets pas beaucoup de chocolat blanc, mais ça permet de contrebalancer avec la lavande. Et c'est pareil, il faut pas beaucoup de lavande pour pas que ça fasse produit d'entretien, produit à chiottes. Il faut que ce soit vraiment léger, donc c'est à la fois c'est léger, c'est une pointe de lavande et une pointe de chocolat blanc. Et c'est vrai que pour trouver la pointe en question, il faut faire des tests. Ouais.
Pour le menu, tu changes une fois par semaine, grosso modo.
Ouais, c'est ça.
Comment ça se passe ?
On a un roster, un roster de plats maintenant qui tournent toutes les semaines et donc qui reviennent forcément tous les 2, 3 à 4 semaines. Mais c'est ça, toutes les semaines, on a 3 propositions salées. Et 4 ou 5 propositions sucrées, avec une alternative au moins vegan et souvent pas mal de VG. Ouais. Plus ou moins finement.
Okay.
Et il faut que ce grain-là, en gros, pour faire 2 petites tasses, 2 expressos, il faut à peu près 18 grammes. Donc là, on est à 17,9, c'est pas mal.
C'est au gramme près, quoi.
Ouais, dizaines de grammes près.
Tu mets dans le porte-filtre. Donc ça, et tu dois le faire pour chaque café ?
Ouais, ouais, donc pour chaque café. Et si le temps ou le poids n'est pas bon, il faut que je règle... la mouture de mon grain de café pour retrouver le bon temps et le bon poids. Donc. Et là, l'objectif, c'est que ça coule en 25 secondes et que j'ai 50 grammes dans les 2 tasses. Donc, t'attends 25 secondes. Et si au bout de 25 secondes, j'ai que 30 grammes dans mes tasses, ça veut dire que le café ne coule pas assez vite. Donc il faut que mon grain soit un peu plus gros. Tu vois là, 25 secondes, 46 grammes, c'est pas mal.
Tu manges à quel moment, toi, là-dedans ? Comment tu fais ? Là, il est 11h, vous allez bientôt ouvrir.
Ouais.
Je suis arrivé, donc tu étais en train de préparer du cheesecake, préparer la machine à café, etc. Comment tu gères une journée de restaurateur, toi, au moment où tu manges ?
Bah pour manger, c'est vrai que c'est pas forcément simple, d'autant qu'on est ouvert en continu jusqu'à 18h. Donc dans ces cas-là, le truc, c'est que le service, on est en service continu aussi, mais vu qu'on a quand même des gens de bureau qui viennent manger le midi, et puis donc c'est quand même assez marqué, ça arrive d'avoir des gens qui viennent à 15h demander à manger, au moment où nous, le service est fini, où je peux ranger et justement manger. Donc on va dire qu'en moyenne, on mange... un petit truc à 2h30, parfois ensemble dans la salle s'il n'y a personne, parfois l'un après l'autre, toujours en vitesse, parce que vu qu'on est en continu, il y a toujours quelqu'un qui arrive Et il y a des jours où, par exemple, le samedi, où pour le coup, si on est... Le samedi, c'est une très très grosse journée où il y a du monde vraiment du matin au soir. Et là, à ce moment-là, on n'a même pas le temps de manger. Donc, c'est même pas le temps de manger, pas le temps de boire un coup, pas le temps d'aller aux toilettes. Donc, c'est. Ah ouais. Bah, là, ton corps se met en machine de, jusqu'à 18h. Et arrivé à 18h, tu manges un petit truc ou alors tu manges des petites pépites de chocolat ou un bout de toast avec du houmous dessus. Mais c'est vraiment. Non, c'est pas top.
Ouais, je t'imagine en train de grignoter les retours de plat, là, quasiment.
Non, peut-être pas, mais. Peut-être pas, mais c'est vraiment dès que t'as un temps libre que. Parce que c'est vraiment très intense. La semaine, ça l'est pas. Il y a des moments intenses, mais c'est pas du matin au soir. Donc, si tu veux trouver le temps, tu peux trouver le temps de manger un petit truc. Mais le samedi, c'est vraiment. Je dis à Julia, au moment où il y a personne qui rentre dans la salle, je lui dis va manger un truc derrière. Peu importe ce que tu trouves, mais mange un peu de sucre, quoi.
Tu parlais de piétiner tout à l'heure, d'avoir des courbatures, etc. C'est pas trop dur même de garder la ligne en cuisinant tout le temps, parce que en plus t'es dans la pâtisserie, tu dois avoir envie de grignoter, tu manges à horaire décalé, tu t'es debout. Enfin, comment tu gardes la forme? Tu fais du sport à côté? Je sais pas, tu vas courir le matin?
Non, je pense que j'ai de la chance d'avoir un bon métabolisme qui me fait pas trop ni perdre de poids ni prendre de poids. Après, le truc c'est que. Bah déjà, il y a un truc, c'est que souvent, moi, ça fait pas longtemps que je le suis, mais les restaurateurs ont tendance à mal manger, à pas forcément manger ce qu'ils font, parce que nous, on ramène les restes le soir à la maison. Du coup, dès qu'on peut ne pas manger Canyon, on mange pas Canyon. Et paradoxalement, ce qu'on fait ici, c'est plutôt bon et sain. Et du coup, on va avoir tendance à manger des trucs qui le sont pas. Et j'ai un copain qui est journaliste notamment dans la food, et qui disait qu'il connaît pas mal de chefs et qui amenait à les interviewer, et qui disait que c'était les premiers à aller bouffer au McDo dès qu'ils avaient 5 minutes, quoi.
Ah ouais, tu te désensibilises en fait à ta bonne nourriture.
En fait, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais t'as envie de. Si tu manges du sain toute la journée, tout le temps, et que t'es à côté du sain, t'as peut-être au bout d'un moment envie de décompresser, et ça passe par ça. Et je peux comprendre ça. Je peux comprendre aussi les chiffres. Les chiffres sont terribles par rapport à l'alcool et la drogue dans la restauration. Mmh. Et les gens qui ont besoin de décompresser. Et ça peut passer par plein de choses différentes. Moi, pour l'instant, ça passe pas par ça. Et encore, la bière du soir, c'est un truc qui n'existait pas avant et qui maintenant, qui existe relativement souvent, parce que t'as besoin de couper de ce rythme-là qui est assez intense. Et pour par rapport au sport, par exemple, je faisais du basket avant, j'en fais plus parce que j'ai plus le temps d'en faire. Donc je fais vraiment pas beaucoup de sport, à part le sport que je fais chez Canyon. Mais aussi, vu qu'on piétine, on fait beaucoup de sport, donc on élimine beaucoup de calories. Si on n'a pas le temps de manger, on mange pas beaucoup. Donc en fait, on va pas forcément grossir. On va avoir l'impression qu'on est du coup en bonne forme, alors que je pense que si on fait pas attention, ça peut se payer à un moment ou à un autre, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est des questions sur lesquelles, quand on a un peu de temps, il faut se poser, je pense. Et là, je pense à refaire un peu de basket, ouais, pour tonifier un peu tout ça, parce que non, je pense que c'est pas un rythme d'hygiène de vie idéal, non, je pense pas.
Il est 11h, je crois, tout poil, on prend cette question, donc je crois que Julie a ouvert la porte. Les clients arrivent,
ouais.
Ils vont pas tarder à arriver, donc 90% des cas, ils sont plutôt sympas.
Bah bon, 99,9%.
Ah bah c'est cool.
Non, non, il y a... Je pense que c'est propre au concept. On est un couple qui tient un petit coffee shop, un petit café fleur. On a une identité qui est assez forte pour avoir des clients qui viennent pour ça et qui sont déjà un peu convaincus, pas convaincus avant de venir, mais sensibles. Et du coup, qui viennent... pour partager quelque chose. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent et qui disent j'ai vu ce que vous faisiez, ça a l'air super. Donc, c'est déjà des compliments tout de suite. Donc, pour avoir de temps en temps quelqu'un qui rentre et qui dit pas bonjour ou qui fait encore, franchement, c'est très rare. Je sais même, ça se compte sur les doigts d'une main, des clients vraiment, vraiment embêtants depuis qu'on a ouvert il y a presque un an. Franchement, c'est très rare.
Et ça va, tu gères comment dans ce cas-là? C'est calme olympien en permanence quand il y a un client un peu...
Ouais, mais franchement, il n'y en a tellement pas. Et quand c'est des trucs, c'est vraiment des petits trucs. Hein, c'est, j'ai même pas d'exemple à donner, quoi. Donc,
Tant mieux.
Ouais, non, franchement, tant mieux.
Et ça doit être hyper gratifiant quand on te félicite sur ton cheesecake ou ton plat.
Ouais, surtout sur des... Et n'ayant pas été cuistot ou restaurateur, j'ai moins de certitude dans ce domaine-là que dans d'autres. Que, par exemple, sous le concept, dans sa globalité, on l'a tellement travaillé, on a fait tellement de recherches, etc. On n'était pas sûr que ça marche, mais quand on me dit que... Je préfère qu'on me dise, c'est vrai que mon cheesecake, c'est le meilleur cheesecake que j'ai jamais goûté de ma vie, que quelqu'un qui dit, ah, c'est sympa chez vous. Quand on me dit ça, ça me touche vraiment, parce que c'est... Ouais, c'est surtout que pour le coup, le cheesecake, c'est une recette perso, donc c'est... Non, pour le coup, c'est vraiment gratifiant. Et on a... Ouais, quand quelqu'un dit ça, c'est... Après, c'est dur de prendre du recul sur... C'est bien ce que vous faites, c'est bien votre projet, vous avez du mérite, vous pouvez être fier de vous. C'est toujours pareil, quand on est dans le truc, on s'en rend pas compte. C'est dur de prendre du recul. Mais c'est sur des petits compliments comme ça où on arrive quand même à attraper le truc et se dire, c'est comme Julia avec ses bouquets, où c'est pareil, elle n'était pas fleuriste avant, donc elle s'est formée, etc. Mais quand, là encore, elle fait ses bouquets ce matin, elle me les monte, elle me demande ce que j'en pense, quoi. Donc elle a besoin tout le temps d'être assurée. Et quand... Là, elle va mettre des photos sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire « Ah, vous avez reçu vos fleurs, ils sont super, vos bouquets. » Bon, c'est énorme, quoi. C'est vrai que c'est génial.
Dans la même veine, voir des gens qui reviennent, je ne sais pas si vous commencez à avoir des habitués, ça doit être super agréable aussi.
Ouais, des gens qui reviennent. Puisqu'en plus, les habitués, c'est vraiment une fois par semaine minimum, quoi. Et c'est des habitudes de consommation que je n'ai pas, que je n'ai jamais eu de revenir toutes les semaines au même endroit. Et on sait très bien, presque à l'heure où les gens vont venir, quoi. Là, je sais bien que le mardi matin, quand on ouvre, on a une cliente qui vient prendre souvent un dessert ou deux avec son gros chien. Et je sais très bien que le mardi à 11h, on sait, bon, bah, elle va venir. Et le samedi, c'est plein d'habitués qui peuvent pas venir la semaine et qui viennent le samedi. Et non, ça, c'est assez dingue, ouais. Et puis, du coup, on s'est fait des potes aussi. Avant, on habitait à Paris où c'est très compliqué de se faire des potes puisque tout le monde est dans son boulot, etc. Et nous, moi, j'étais en télétravail en plus. Donc, j'ai rencontré des gens. C'était à part par le basket, c'était compliqué. Et là, on se retrouve à voir des gens toute la journée, des gens qui viennent et qui veulent en plus sympathiser. C'est étonnant, ouais. C'est, au niveau sociologique, c'est hyper intéressant.
Ça enrichit vraiment ta vie sociale. Il y en a qui deviennent des amis.
Ah bah, il y a plein de gens. Il y a des clients qui te demandent de boire des verres avec eux. Toi, tu veux ou tu veux pas. Après, il y a des clients qui te proposent pas et tu te dis, ils ont l'air super intéressants. Il y a des gens, on est dans une ville où tu peux croiser des gens facilement. Donc, tu croises des clients et tu te dis, bon bah, tiens, ça te dit qu'on allait boire un verre. Donc, non, je sais pas combien de clients on a vu en dehors du boulot, mais un paquet, hein. Je sais pas si on s'est fait 10-15 potes, peut-être. Un truc qu'on se ferait pas dans n'importe quel job, parce que tout le monde est dans son job. Donc, c'est. À part tes collègues de boulot, c'est compliqué de rencontrer des gens, quoi.
C'est cool, ça te fait rencontrer plein de profils variés, en fait.
Ouais. Et puis, c'est ça qui est drôle, quoi. C'est des gens qui. Vraiment de tous horizons, de tous âges, des gens qui sont presque au lycée, qui reviennent de temps en temps, avec qui tu discutes. Et puis, t'as des gens de. On a un client qui a 80, 85 ans, qui vient prendre son thé souvent, ou la voisine d'à côté, ça fait 50 ans qu'elle habite dans la rue, et dès qu'elle passe, elle n'est pas encore passée, mais elle va sûrement passer, on pourra lui faire coucou, elle vient prendre son thé aussi de temps en temps. Et ça, c'est dingue, ce côté-là aussi, quoi. Ça fait partie intégrante du boulot. Et on a de la chance parce que c'est vraiment des gens super, quoi. Sens un côté fruité quand tu sais, ouais. Je sais pas si tu sais, ouais. C'est pomme, cerise et chocolat noir.
Et donc là, ouais, c'est très
dilué.
Ouais. Ouais, c'est marrant.
Et donc ça, c'est plutôt un café digeste, celui que moi je bois toute la journée.
Okay.
Parce que si j'enchaîne les expressos, c'est pas très bon pour la santé, je pense.
T'as le cœur qui
va
exploser.
Et c'est le café grand-mère. Donc c'est le café fil que tout le monde peut faire chez soi, sauf que en fait ce café là Il a maintenant pas mauvaise réputation, mais les gens vont préférer prendre un double expresso, par exemple. Mmh. Ou un americano, c'est un deux expresso, donc deux cafés très courts avec de l'eau. Okay. Ils vont préférer prendre ça qu'un café filtre, alors que je sais très bien qu'eux, ils préfèrent boire un café dilué qu'un café très fort avec un peu d'eau, quoi. C'est plus logique. Ouais, en fait, c'est pour dire, moi, je veux un double expresso avec de l'eau. Et quand tu leur dis, vous voulez pas un café filtre, c'est comme le café de chez vous, quoi. Ils disent, bah non, parce qu'après, c'est vrai, ils peuvent le faire chez eux. Mais bon, c'est du bon café dedans, donc c'est... Alors que si tu goûtes après l'expresso à côté...
C'est vrai que là, il est très doux, le filtre. Il est vraiment...
Ouais. Alors que l'autre...
C'est pas désagréable. Et tu vois, je me surprends, quand tu le dis, je me surprends à te dire, en effet, des fois, à la maison, je fais du café, de l'espresso très fort et ouais. tout, alors que je préférerais peut-être un truc plus léger, quoi. Ouais, c'est deux trucs différents, quoi.
Ouais.
C'est vraiment... Non, en effet, et tu sens que t'as besoin d'en boire moins, aussi. C'est pour ça, parce qu'il est très, très fort, quoi. Il y a toujours une partie virtuelle, quand même.
Ouais.
Il y a les évaluations sur Internet, alors qui sont excellentissimes dans votre cas. Il y a vos réponses en dessous. J'ai vu que vous signez tous les deux.
Ouais.
C'est une stratégie consciente ou alors vous prenez vraiment comme ça vient le côté Internet ?
Bah, il y a le côté Google où t'as des potes, ta famille qui a mis des avis aussi. Ça, faut pas se mentir. Après, il y a des gens qui mettent 5 étoiles. Tu reçois un... Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a reçu un super commentaire, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui dit... Les commentaires sont dithyrambiques en plus, quoi. Ouais. L'accueil est super, vous pourrez manger un super gâteau, avoir un super bouquet de fleurs, enfin, c'est presque trop, quoi. C'est dingue. Pour ce qui est de Google, ouais, c'est vraiment aléatoire, donc... Mais ça te... T'as pas de stratégie pour... Nous, on n'a pas de stratégie, on ne dit pas aux gens de laisser des avis, c'est important d'avoir 5 étoiles, on n'est pas sur TripAdvisor ou La Fourchette, etc. Donc on n'est pas du côté avis, on ne travaille pas dessus. Par contre, on travaille pour, et c'est ce qui t'oblige aussi à être toujours concentré et à faire du super boulot, parce que si un jour... ton assiette elle est sortie sale du lave-vaisselle ou que le sol n'était pas nickel ou que les toilettes elles étaient pas nickel, et ben c'est ça qui va en fait te faire avoir un mauvais avis et qui peut vachement influencer ton activité, quoi. Donc nous, on travaille pas pour avoir des super avis, mais par contre c'est un truc que t'as toujours dans un coin de la tête. C'est la peur d'avoir un mauvais avis.
Ouais, donc ça joue quand même.
Ça joue quand même, ouais. Reste, quoi. Après, côté virtuel, c'est plutôt nous, on est plutôt sur Instagram où on est conscient que c'est important d'y être, et du coup on fait vachement attention à l'identité de Canyon. On pense pas du tout les choses pour Instagram, c'est des choses qui nous plaisent, mais après ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de les mettre le plus en valeur possible par les photos, par les stories, par les posts, etc. Pour que ça se diffuse sur Instagram.
Ça participe quand même de l'univers, et là pour le coup Instagram c'est plus réfléchi.
Instagram, ouais, c'est beaucoup plus réfléchi, ouais. Donc c'est ce qui permet d'avoir. Nous, on était surpris d'avoir une grosse communauté sur Instagram dès le début. On voyait ça par rapport à des gens qui sont sur le même créneau. Nous, on avait tout de suite beaucoup plus d'abonnés, alors qu'on arrivait en plus pendant le Covid où on avait moins de clients. C'était même en plein confinement. Et pourtant, on avait beaucoup d'abonnés, et il y avait même du coup l'effet inverse, des gens qui appelait pour réserver plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, parce que voyant que le projet marchait bien, ils pensaient que c'était complet tout le temps, quoi.
D'accord.
Et on était obligé de leur expliquer qu'en fait, c'est pas parce que t'as 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés que t'as du monde tout le temps, quoi.
Vous êtes pas sur TripAdvisor ? C'est un choix ou c'est comment ça se passe pour ça ?
Franchement, on s'est pas posé la question de le faire. On va peut-être la poser parce qu'on s'est rendu compte l'été dernier que n'étant pas dans l'hypercentre, on n'était pas sur le chemin des touristes. Et avoir des touristes l'été, c'est hyper important. Bon, il n'y en avait pas beaucoup l'année dernière à cause du Covid, mais cette année là on va réfléchir à avoir une approche plus touristique sur les sur internet, ouais, parce que c'est un vachement important quand Nantes, c'est enfin comme toutes les villes, se vide vraiment l'été et ou même par période pendant les vacances scolaires, etc. Et il faut forcément des touristes pour compenser ça, parce que sinon tu t'ennuies un peu, quoi. Donc ça, on n'y avait pas pensé l'année dernière, on se rendait pas compte. Et là, il faut qu'on le fasse cette année, ouais.
Parce que TripAdvisor, c'est toi qui dois faire la démarche de t'inscrire.
Franchement, j'ai aucune idée. Oui. Je sais pas.
En fait, moi, j'étais étonné de pas vous trouver. C'est pour ça que je me posais la question.
Ah oui, ouais.
Non,
mais je pense que tu dois créer un compte.
D'accord.
Et après, les gens laissent des avis. Après, ce sera tout juste. C'est une fenêtre de plus sur les avis, et c'est bon. C'est pas. Mais c'est important quand même pour l'activité, ouais. On se rend pas compte, nous, quand on a une. Moi, j'ai pas cette vision-là d'aller. Enfin, moi, quand je découvre un resto, souvent c'est sur Instagram ou Facebook ou je sais pas. Et du coup, je me rends pas compte que c'est important pour d'autres gens. Et parfois, il y a des gens qui arrivent et je leur demande comment vous nous avez connus. Et parfois, c'est par des trucs que je connais même pas, quoi. Ouais. C'est des applications pour trouver des restos, mais je sais même pas le nom de l'application, quoi. Ou des étrangers aussi qui me disent je vous ai trouvé sur Google en tapant je sais pas quel mot clé, et je m'étais pas rendu compte qu'il fallait peut-être penser à ça et au référencement, quoi.
Oui, tu pourrais presque rajouter 2 ou 3 heures de boulot à ta journée en faisant juste du web,
du
c'est référencement
clair,
et tout ça,
ouais. Ouais, parce que déjà ça prend du temps de quand tu fais attention à faire la bonne photo sur Instagram. Nous, on se dit souvent avec Julia, il faut qu'on le fasse ce soir. Et en fait, on rentre, on est lessivé. Et ça prend du temps de trouver la bonne photo, de bien la sectionner, de la retoucher s'il faut, et de la publier avec le bon message, etc. Enfin, c'est un truc qui... C'est bête, mais ça prend toujours plus de temps qu'on pense. Et c'est vrai qu'on manque pas de boulot. On a plein de trucs qu'on aimerait faire et qui sont sur la to-do et qu'on ne fait pas. Mais ça en fait partie, ouais.
Parle de to-do, je reviens un petit peu d'ailleurs au projet et à la reconversion que ça a été pour vous. Tu lances avec un financement participatif, je suppose que vous mettez un petit peu d'économie aussi là-dedans, et vous avez dû avoir 1000 choses à gérer en même temps, la déco, l'emplacement, les menus, les formations, etc. Comment tu as géré ça? Parce que tu arrives, il y a un truc gigantesque devant toi, tu avais ton boulot et tu te dis je me lance, et tu fais quoi? Tu fais 20 000 listes, tu fais une grande liste, comment tu fais?
C'est surtout Julia la reine de la to-do list. Franchement, c'est vrai qu'à un moment on avait 20 000 to-do list. Ouais. Après, Julia, elle a arrêté son contrat a pas été renouvelé. Du coup, elle a eu, je sais pas combien de temps exactement, mais je pense pas loin d'un an, plus ou moins à la maison, plus ou moins à travailler dans un coffee shop à Paris. Après, on a fait un an aussi à Nantes, à la maison. Moi, je continue à travailler. Chez Basket USA, donc c'était dès que je travaillais pas, j'étais avec elle sur le projet. Et c'est vrai qu'on a. On se rend pas compte du travail. Enfin, tu te rends compte du travail que c'est dans certains points, comme par exemple, enfin, tu vois, la déco, la carte, etc. C'est des trucs que tu peux faire de ton côté et tu peux en discuter avec tes potes. C'est le côté plaisant, on va dire. Après, tu as le côté recherche de financement, rechercher le local, faire la formation d'hygiène, tellement de choses comme ça, enfin, trouver un comptable, trouver un expert comptable pour faire ton business plan, que ton business plan il soit nickel. Heureusement que nous on a pris du temps pour le faire. Le projet, ça a pris entre l'idée et l'ouverture, je crois que c'était 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc 2 ans et demi en faisant un peu tous les jours, ça va. Mais c'est vrai que c'est un boulot titanesque, et pareil, c'est une fois que t'es ouvert, c'est tellement de choses à faire, la compta, l'organisation, c'est des trucs auxquels on pense pas, et c'est vrai que c'est beaucoup 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 de boulot, quoi. Et il faut faire des to-do list tout le temps de n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ça. Et c'est beaucoup de boulot, ouais.
Tu l'as dit, toi, tu as dû te former en pâtisserie. Ouais. Julia, elle a dû se former pour les fleurs.
Ouais.
les formations, vous les faites avant de lancer le projet pour être sûr que vous voulez continuer là-dedans, ou alors vous lancez et vous faites les formations au fur et à mesure?
Moi, j'avais toujours mon boulot à côté, donc c'était plus facile. Julia, elle avait plus son boulot, donc après, elle aurait pu revenir dans la com. Mais à partir du moment où on a eu l'idée, on a réfléchi tout le projet de manière très scolaire. Mmh. Et en se disant, bon, c'est bien de réfléchir à une carte, etc. Donc ça, c'était le côté cool. La déco, on l'a imaginé 1000 fois. Le logo, enfin, c'est des trucs tout bêtes. Mais nous, c'était notre truc, donc c'était la partie fun. Après, il y a un moment où tu sais que tu vas devoir te former et il faut sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est pas facile non plus. Et donc, de manière assez scolaire, Julie, elle s'est dit, il faut que je... Elle était déjà calée en fleurs avec son papa, etc. Mais elle s'est dit, il faut que j'ai une formation fleuriste. Et du coup, elle a été sonnée à plein de portes, faire des formations, des stages pas payés par Pôle emploi, etc., etc. Et du coup, elle s'est dit, il faut que je me forme aux fleurs. Donc, elle s'est formée jusqu'à maîtriser son domaine. Après, pour faire barista, du bon café, des bonnes boissons, etc., elle s'est dit, il faut que je le fasse. Donc, elle a bossé dans un coffee shop chez Strada à Paris, où elle a bossé pendant des mois et des mois à faire des cafés pour trouver tous les bons réglages, etc., parce que c'est une vraie science, quoi. Donc, elle a bossé, elle a fait du service dans un environnement où il y a beaucoup de monde. C'était à Paris, dans le Marais, où c'était... Donc, elle a fait jusqu'à qu'elle sente en confiance. Et moi, c'est pareil, il a fallu que je sorte du basket pour prendre des cours de cuisine. Et pareil, jusqu'à me sentir en confiance par rapport à l'ambition qu'on avait aussi. Parce que c'est pareil, ça sert à rien de... Enfin, nous, on est parti du principe que Joël s'est dit, je vais pas faire un CAP fleuriste. Parce que dans le CAP fleuriste, c'est une vision traditionnelle où il faut savoir faire des couronnes mortuaires, par exemple... Elle, ça lui correspondait pas par rapport à ce qu'on voulait faire, donc elle a préféré bosser directement plutôt que faire une formation. Après, c'est le risque, le truc c'est qu'il faut aussi convaincre les banques, et quand tu vas voir les banques et que tu te dis j'ai pas de CAP, j'ai pas travaillé pendant 5 ans, donc ça, c'est il a fallu convaincre les banques qu'on avait fait le nécessaire, quoi. Et il faut que ce soit cohérent avec ton projet, où nous on fait des petits bouquets, de la petite pâtisserie, de la petite cuisine. Voilà, c'est faut que ce soit cohérent, quoi.
Quelle fleur tu as au mois de janvier à Nantes?
Alors à Nantes, je n'en ai pas. Du coup, l'idée est de se fournir dans le Var, qui est un grand bassin de production de fleurs françaises. Et on y trouve le mimosa, qui chez nous à Nantes arrive plutôt en février, mais là-bas il fait un peu meilleur, donc il arrive en janvier. Des renoncules, des anémones, il y a du genêt, il y a plein de jolies choses, plein de jolies couleurs, plutôt des fleurs champêtres, c'est l'idée du projet, d'utiliser des fleurs champêtres.
Donc l'idée, c'est que tu n'as que des fleurs de saison, c'est comme les légumes de saison, ça change à chaque fois, quoi.
Exactement, ça change à chaque fois, autant dans les formes que les couleurs, c'est en fonction de l'arrivage, en fonction de ce que les producteurs ont sur les bras. Et du coup, c'est la surprise à chaque fois, quand l'arrivage est là, c'est chouette.
Tu parlais du Var, du coup, les provenances, elles changent selon les saisons aussi?
Pour moi, pas franchement, parce que en gros, de mai à début octobre, j'arrive à me fournir à Nantes avec une ferme florale qui existe au sud de Nantes. Donc c'est de la fleur bio et locale. Et le reste de l'année, c'est la fleur du Var et c'est le deuxième bassin de production, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne. C'est mon deuxième producteur.
Pendant les 2 ans et demi que ça dure, il y a des moments forcément où tu te dis « j'aurais pas dû m'embarquer là-dedans
». C'est surtout le... Ça reste un peu abstrait tant que tu... C'est vraiment le moment où tu visites les locaux et où tu vas voir la banque, où tu quittes ton taf, où là, c'est vraiment la banque où on te dit tu prends un prêt pour des dizaines de milliers d'euros et toi tu mets tes petits euros, tu les mets sur la table aussi, où tu te dis bon allez, ok, Puis après, en fait, t'es tout le temps dans, quand même dans un... T'as toujours quelque chose à faire, donc tu sors pas trop la tête de l'eau. Mmh. Mais il y a des moments comme ça où tu te dis, ok, les moments où tu signes des papiers, les moments où tu fais des travaux et tu te dis, bon, bah, on ouvre, demain on ouvre, où t'es derrière ton comptoir et tu te dis, bah, il y a des gens qui vont rentrer et tu les accueillir, leur faire à manger. Enfin, c'est des trucs où tu... Faut pas trop... Ouais, tu te dis quand même, je suis dans une aventure, mais ouais, t'as eu le temps quand même de te dire est-ce que je fais le bon choix ou pas. Et puis, rien n'est définitif. Même si ça... Ouais, après, c'est vrai que si ça te plaît pas, c'est compliqué quand même.
Mais quand je t'écoute, ça a pas l'air d'être si simple que moment difficile, moment pas difficile. Quand je t'écoute parler de l'ouverture, etc., ça a l'air d'être en fait un mélange d'émotions permanent, quoi. Un peu de stress, un peu d'impatience, un peu de...
Ouais, bah beaucoup de... En fait, beaucoup de stress, mais j'étais très stressé avant dans le basket pour des quand j'avais des trucs à faire, quand il y avait des émissions, quand il y avait des interviews, c'était un truc qui me prenait vraiment à cœur. C'était vraiment ma passion de toute ma vie. Et le jour où tu dois interviewer un joueur NBA ou couvrir un match NBA, c'était vraiment un stress hyper intense. Et qui m'a fait relativiser d'autres formes de stress. Et ce qui fait que c'est plutôt du bon stress, quoi. C'est, je suis content de quand il y a plein de monde, je suis content. Je suis jamais vraiment sous l'eau à me dire merde, je vais pas gérer. Je me dis même si je gère pas, je trouverai une solution. Alors qu'avant, j'ai eu des quand j'étais journaliste où j'ai eu des stress où je me disais le gars en face. Si c'est en plus dans une autre langue, si j'ai 5 minutes, s'il y a d'autres journalistes, il faut pas que je me foire, il faut que je me mettais vraiment beaucoup de pression. Et du coup, maintenant, franchement, là, j'arrive à gérer la pression, quoi. Après, il y a toujours ce truc où t'es face à des gens qui, c'est complètement différent. T'as des gens qui attendent quelque chose de toi, donc il faut aussi assurer, il faut pas les décevoir. Donc il faut être concentré. Mais j'aime bien, j'aime bien quoi. C'est de la bonne pression et les gens ils sont hyper cool donc en général ça se passe bien donc c'est cool.
Le fait d'être en couple, ça aide peut-être à gérer aussi ces émotions là, d'avoir quelqu'un à qui parler au quotidien, ou alors ça peut peser à l'inverse d'être tout le temps sur la même chose ensemble.
Bah, sur le papier, je pense que ça peut peser et nous c'est un des premiers constats qu'on a eu parce qu'on a eu beaucoup de stress au moment notamment pour avoir le prêt. Où c'était en fait là, tu vas voir des banques et puis t'as ton. On avait un courtier et il t'appelle. En fait, t'attends l'appel du courtier qui. T'as son numéro, tu décroches et en gros là, il te dit bah, la banque elle veut pas te prêter quoi. Donc là, tu te dis bon bah ok, tu t'as grillé une cartouche. Deuxième cartouche, tu as grillé aussi. La troisième, c'est la dernière quoi. Puis là, il te dit ça va peut-être le faire, mais je vous rappellerai dans une semaine. Toi, t'as une semaine à rien faire, parce que t'as juste à attendre. Donc là, c'est dur. Nous, on était tous les deux ensemble, donc on pouvait se discuter, on s'engrainait dans notre stress aussi. Et après, quand on l'a eu, c'est bonheur aussi x2. Et au quotidien, on s'est vite rendu compte, avec toutes ces émotions-là, que c'est compliqué de vivre une aventure comme ça à deux, si l'autre personne, c'est pas un très 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 proche. Parce que t'as des émotions très fortes et il faut aussi tout simplement savoir se dire les choses quand ça va pas. Il faut être tout le temps ensemble. Il faut, si tu fais ça en couple, il faut que ton couple il soit solide. Nous on avait passé beaucoup de temps ensemble parce que j'étais en télétravail et Julia était à la maison pour préparer le projet donc ça fait longtemps qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et on communique vachement, pas que pour le boulot, donc on sait comment communiquer et c'est important. Et même si on le fait avec un pote, il faut aussi avec ce pote-là savoir que si il y a beaucoup de monde d'un coup et que je commence à m'énerver, il faut pas que tu me rentres dedans, il faut que tu me laisses. C'est des trucs tout cons, mais c'est hyper important et au quotidien. Surtout au début du projet, quand t'as beaucoup de choses à faire, que ça prend beaucoup de temps, que t'es très stressé, il faut être à deux, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Donc il faut avoir le bon partenaire.
Maintenant que ça tourne, que vous êtes établi, que tu commences à avoir tes petites habitudes, si je comprends bien,
ouais.
Est-ce que parfois tu repenses à ta vie d'avant ?
Bah. Là, le basket, déjà, la NBA, j'ai complètement lâché. Ça prenait beaucoup de temps. Concrètement, c'était regarder du basket sur l'ordi, en commenter, écrire dessus, regarder des matchs toute la journée, etc. Et à l'inverse, maintenant, c'est tenir un resto, être très très loin du basket, être avec des gens. Enfin, c'est deux vies qui sont complètement différentes. Et j'aurais tendance parfois, quand on est au bout du rouleau, je me dis, c'est marrant, avant je commentais du basket, j'étais payé pour commenter du basket, c'était tranquille quoi. Bon, après, ça avait beaucoup de côté négatif et plus peut-être de côté négatif que de positif. Enfin, bon, j'avais fait le tour de. En fait, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour du truc. Mmh. Et j'ai fait 5 ans à peu près de NBA. La NBA, c'est tous les jours. On réécrit souvent les mêmes papiers. Mmh. C'est les mêmes histoires, c'était une routine qui fait qu'au bout d'un au bout de 5 ans, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et d'avoir besoin de faire autre chose quoi. Et ce sera peut-être pareil avec Canyon hein, mais j'ai aucun regret sur la vie d'avant. Ça c'est sûr.
Pour un auditeur qui voudrait faire la même chose que toi, alors pas exactement le même concept, on va te laisser tranquille quand même.
Pas à Nantes quoi.
Pas à Nantes. Pour un auditeur qui voudrait ouvrir un café fleur ailleurs qu'un boulot, tu lui donnerais quel conseil s'il veut se lancer ?
De venir prendre un café, il faut qu'on en discute ensemble. Non, c'est ce que je dis, on croise des gens qui ont envie de monter leur truc, monter leur affaire. Nous, il y a plein de trucs qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a fait des trucs qui étaient. Enfin, choisir un local, à cet endroit-là, mettre tant d'argent sur la table. Acheter certains trucs qu'on n'aurait pas dû acheter. Enfin, on a fait tellement d'erreurs et qui auraient pu être vraiment préjudiciables quoi. On voit parfois des trucs qui ouvrent et on se dit que ça va être compliqué ce concept à cet endroit-là. Ça peut ne pas marcher. Et nous, je sais qu'on a visité des locaux. On passe devant et on se dit mais si on avait été là, c'était compliqué quoi. Parce que tu mets toute ta vie sur la table. Tout ton argent, toute ton énergie, ta santé, enfin, et du coup, si quelqu'un me posait la question, ouais, j'aimerais bien en discuter avec lui et essayer de lui donner mon expérience et lui dire que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut éviter de faire. Et après concrètement, c'est aller voir le plus de monde possible. Nous, on a été voir plein de monde, on allait dans des cafés à Paris, on disait est-ce qu'on peut discuter une heure avec vous et prendre des infos. On l'a fait à Nantes. On connaît presque beaucoup de coffee shops à Nantes, on s'entend vachement bien et il faut vraiment réfléchir son projet quoi. Et savoir aussi se dire qu'une bonne idée c'est peut-être pas une bonne idée et ouais s'asseoir sur des trucs qu'on aime faire et se dire bon bah ça j'aime pas trop faire mais il faudra peut-être le faire aussi quoi.
Et ben merci beaucoup Simon.
Bah merci à toi.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux avec les comptes @OccupationPod. Occupation, c'est au pluriel. À très bientôt pour un nouveau reportage.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.